Ce matin, on a fait plein de choses, comme par exemple bouillir des légumes secs et tout ça. Ça, c'est important parce que parfois, on se dit, aujourd'hui, je ne vais pas prendre des légumes. Bah non, parce qu'il y a des enfants qui, eux, ils aimeraient bien avoir des légumes alors que nous, on jette et qu'on ne se rend pas compte.
CO2, mon amour.
J'ai lu dans des journaux que la plupart des fruits et légumes qui n'étaient pas très beaux, on les jetait, c'était à la poubelle.
Avec Denis Chessoux.
Et dans les supermarchés, quand on achète des fruits ou des légumes, la plupart du temps, ils sont bien ronds, bien beaux. Et je trouve ça un peu stupide de jeter juste pour le physique, alors que ça reste le même fruit.
Sur France Inter.
À la racine, comme les légumes du même nom, autrement dit l'éducation avec les enfants. Bonjour à tous, on va parler donc d'alimentation, de nutri-écologie pour être tout à fait précis, avec un exemple qui est quand même assez réjouissant. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec Ludovic Asselot aujourd'hui à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Allez, avec une petite humeur, parce que déjà qu'il n'y a plus de saison, on passe du grand froid au sirocco. Alors pour info, le grand froid, c'est le nouveau nom médiatique qui est donné à l'hiver. On nous masque la vérité sur la platitude de la Terre, on se gèle au Texas pendant que les bourgeons affolés rentrent et sortent entre deux frombrissements d'abeilles déboussolées. La pandémie scie les câbles des téléskis et nous oblige à monter, à faire les pistes vertes en taxi. Voilà. Et voilà-t-il pas qu'en ouvrant sa boîte aux lettres, il est possible d'y trouver, à défaut de billets d'amour, une véritable queue de loup. Oui, belle et fournie, que la vilaine bête noire a tout naturellement laissé pour compte en venant sans doute relever le courrier du président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Une queue de loup. Merci, compère loup, de t'être automutilé. Ainsi, moi, président, ai-je refilé à la préfète en février 2020 le superbe appendice afin de fêter dignement son départ. Cadeau original, contrairement aux fleurs qui sont trop périssables, alors qu'une queue de loup, c'est évidemment beaucoup plus présentable. Acte politique pour défendre le pastoralisme, nous dit le récent retoqué aux dernières municipales dans le dévolu. Certes, le pastoralisme est indispensable, mais n'est pas viable face à la concurrence internationale avant tout. Mais il est heureusement soutenu par différentes aides conséquentes. Les moyens sont là pour continuer à faire le métier, malgré les prédations du loup qui n'a toujours pas compris que le végétarisme, c'était l'avenir. Ce n'est donc pas une profession qui est abandonnée, et c'est tant mieux. Alors, cette association de défense de l'environnement ont saisi la justice, et lundi dernier, le tribunal a requis 2 mois de prison avec sursis et 3 500 € d'amende. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de détenir, de transporter et de céder une partie d'une espèce protégée. Mais dans quel pays vit-on si on ne peut plus faire des cadeaux raffinés aux gens qu'on aime? Et M. Bernard donc s'en sort quand même bien, parce que ce genre de plaisanterie peut monter à 150 000 € et 3 ans de prison. Alors, important à dire, le jugement a été mis en délibéré le 12 mars. Mais d'inquiétude n'ayez point, parce que ce que l'on sait moins, c'est que le conseil départemental a voté une écrasante majorité, une protection fonctionnelle. Quesaco, traduction, c'est la prise en charge des frais d'avocat et le montant de la condamnation en faveur de la partie civile, pas la pénale, mais bien la civile, qui sera donc payée par vous, amis contribuables ou alpins. Eh oui, alors il faut quand même saluer donc Pascal Boyer, qui est la députée de Gap, qui a voté contre. Alors, si on assume son acte en faisant une queue de loup, une arme politique illégale, bon, très bien. Mais là, vous aurez soutenu un héros écologique pour qui un bon loup est un loup mort. Même dans les contes de Perrault, les canidés n'auraient pas imaginé une telle issue. Donc, les loups qui nous écoutaient, planquez vos queues et apprenez, comme les lézards, en faire repousser une deuxième de secours, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui au menu, je crois que vous l'avez compris, mais quand même on va détailler un petit peu les choses, à la fois maraîchage et éducation à l'alimentation, donc c'est autour de Lille. Alors c'est le pari fou que de tenter de remailler d'un côté la métropole lilloise de maraîchage, en initiant de l'autre les enfants des écoles à la nutri-écologie, et donc on va en reparler. Ça c'est le travail de Heather Norin et de plusieurs femmes dans le Nord avec une scope qui s'appelle We Change.
Non, on ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un un peu de ventre et d'ego et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, nous, on ira boire la mer, voir si la lune est claire de quelques têtes hors de l'eau. Un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, nous, nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre.
Bien le rencontrer, moi, ce garçon, là, dans les Seven. Je l'ai croisé une fois. Il était pas complètement con. Mais, vous savez, avec le, comme on dit, avec le showbiz, c'est pas toujours évident. Mais c'est tout à fait intéressant. Donc, c'était Julien Doré et Nous, choisi par Thierry Dupin. Alors, se nourrir de façon écologique, beaucoup le souhaitent. Et pour cela, évidemment, faut multiplier les maraîchages et productions de proximité. Et aussi éduquer les enfants. Tenez, déjà, on part rencontrer deux jeunes de 25 ans.
Alors je suis Octave et voici Basile.
Et moi c'est Basile. Et ben vous, c'est bienvenue Basile. À la ferme.
Et ben voilà, donc la ferme du Recueil. Donc on est chez vous, Basile Millet donc, et Octave Lemaître. Alors la passion de départ, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez voulu faire vous ici dans cette ferme ?
Je crois que c'est vraiment le goût qui nous a amené à l'agriculture, c'est-à-dire on a envie de manger des bons fruits et légumes, découvrir des variétés originales. Personnellement, ce qui m'a un peu intéressé dans l'agriculture, et après aussi c'était toute la dimension. Vers l'approche plutôt intellectuelle de l'agriculture, de se dire comment est-ce qu'on peut entre guillemets réinventer l'agriculture qui puisse exister de manière durable dans le temps et en même temps rémunérer correctement le producteur et fournir des légumes de qualité pour le consommateur.
Le point de départ dans cette métropole lilloise de plus presque d'1 200 000 habitants et 95 communes, évidemment, ce sont ces deux jeunes de 25 ans, mais aussi un livre qui est signé Christian Remézy, qui fait vraiment autorité dans ce domaine et qui a écrit La Nutri-écologie aux éditions Thierry Soucard. C'est lumineux, c'est plein de choses dedans intéressantes. Et comment ça veut dire se nourrir pour se protéger et protéger la santé de la planète. Et puis, il y a aussi donc d'autres acteurs. Il y a Heather Norrin, qui est originaire du Wisconsin et qui, avec Sophie Léger, qui est diététicienne, ont créé une SCOP qui s'appelle We Change et qui crée donc des communautés de transition écologique autour du monde de l'enfant. Je vous disais, il faut prendre les choses par la racine. Évidemment, là, ce sont véritablement les gamins. Donc, tout le monde a compris qu'on était la dernière génération pour éviter des suites d'effondrement, cultiver si possible sans pétrochimie, enfin même pas si possible pour eux, sans pétrochimie, et régénérer les terres agricoles. On retourne dans cette ferme avec nos deux jeunes pour cette première partie.
Nous, nos mentors, ils nous inspirent parce qu'ils disent pas nourrir en masse, mais nourrir par la masse des micro-fermes, justement. Donc en fait, on voit vraiment cette première ferme du Recueil comme un espèce de laboratoire de ferme urbaine de proximité, avec vraiment l'idée d'installer un collectif de maraîchers sur la ferme et de déployer ensuite ce modèle. Donc on essaye d'innover là-dedans, que ce soit dans notre forme juridique, que ce soit dans les modes de fonctionnement entre maraîchers sur place, parce qu'on n'est pas tout seul avec Octave. On a aussi un associé qui s'appelle Alain, qui est installé derrière, et on va en accueillir d'autres à terme. Mais donc ouais, on le voit comme un test. Et
alors, on est sur une trame alimentaire en fait, hein. On parle des trames bleues, on parle des trames vertes, et vous essayez de créer une trame alimentaire avec d'autres fermes.
Ouais, exactement. Donc trame alimentaire à l'échelle de la ferme déjà pour installer, on va dire, un écosystème de production, que ce soit maraîcher, verger. On a un apiculteur aussi qui s'est installé. Et c'est vrai qu'on commence à créer un maillage avec d'autres producteurs qui sont dans le coin, avec qui on s'associe du coup pour partager parfois des outils, pour partager, pour faire des commandes aussi de semences et de matériel ensemble. Donc il y a vraiment aussi ce maillage à l'échelle du territoire qu'il faut mettre en place, quoi.
Et le partage du savoir aussi.
Ouais, clairement.
Je pense que quand on démarre, c'est important d'avoir des retours d'expérience, de se dire toi, comment tu cultives, se donner des petits conseils comme ça, c'est vachement important.
Alors vous avez créé en fait une société de coopérative d'intérêt collectif. Ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que les maraîchers. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les clients, il peut y avoir des entreprises, des collectivités qui peuvent se regrouper.
Ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, la semaine dernière, on allait rencontrer la mairie de Villeneuve-d'Ascq, qui aiment bien notre projet. Ils en ont parlé dans La Tribune, qui est le journal de la commune. Ouais. Donc typiquement, ça pourrait être le genre d'acteur qui, à terme, nous rejoint, donc que ce soit la commune, les clients. Enfin, c'est un modèle qui se veut le plus ouvert possible pour justement générer de l'attraction et générer de l'engouement, quoi.
Avec qui on travaille alors ici, Basile ?
Et ici, en fait, on a la chance d'être en pleine métropole, donc il y a une densité d'acteurs qui est folle. Donc, par exemple, on a un centre équestre qui est à moins d'un kilomètre, qui nous amène du fumier. On a un IME, donc c'est un institut pour personnes en situation de handicap, qui vient travailler pas plus tard que ce matin, ils étaient là. Ils viennent justement pour professionnaliser leurs jeunes, ils viennent travailler à la ferme. On a la clinique juste à côté qui nous a demandé de les fournir en salade récemment. Il y a tout un maillage d'acteurs qui est assez dense et avec qui il y a une multitude de synergies à mettre en place. Et c'est ça aussi qu'on aime beaucoup dans notre métier.
Ma tête, elle est plutôt
là-bas. C'est là où on a installé nos cultures de première année.
Eh ben, on y va.
Alors là, on est dans une période creuse parce que donc on est sur la fin de notre première saison.
Ouais.
Et on a voulu que cette saison se termine un petit peu en fait en novembre, pour se garder l'hiver, pour faire le point et bien réorganiser l'année prochaine.
Alors on imagine bien que l'agroécologie, la permaculture, c'est quand même votre fil conducteur, non ?
Oui, alors la permaculture et l'agroécologie, c'est pas en soi des techniques agricoles.
Non, exact.
C'est plus une manière de concevoir sa ferme, une manière de raisonner. Et donc on dit qu'on s'inspire de la permaculture. C'est une éthique. Au départ, c'est prendre soin de l'humain, respecter la terre et partager le surplus. Ça, c'était les pères fondateurs de la permaculture qui ont mis en place cette éthique. Et après, il y a des principes qui s'inspirent du vivant.
Donc là, on est en train de retaper un petit poulailler avec l'idée d'en faire un poulailler ambulant. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le jardin, donc on raisonne par parcelles qui sont à chaque fois séparés par des haies, des corridors de fruitiers.
Mmh.
Donc dans cette dynamique d'agroforesterie, remettre l'arbre dans le système agricole. Et du coup, ces jardins, en fait, on va pouvoir faire tourner un poulailler dessus quand ces jardins seront en temps mort, on va dire, pour que la poule fertilise par sa fiente, mais aussi qu'elle puisse picorer un peu tout ce qui est graines d'adventice qui pourraient nous embêter l'année d'après.
Alors vous êtes installé donc ici, mais le foncier, ça appartient à qui ? Par qui vous avez été aidé ?
Ouais.
Comment vous faites ?
Oui, c'est vrai qu'il faut remettre dans le contexte, parce qu'un terrain de 10 hectares comme ça dans la métropole, ça sort pas de nulle part. Donc on a un mécène en la personne de Gérard Mullier, donc qui croit beaucoup au renouveau agricole par l'agroécologie, par la permaculture. Et donc il a une fondation qui s'appelle la Fondation Fontaine et qui a pour vocation de développer des projets dans l'alimentaire et la santé. Donc nous, on est allé les voir en leur disant qu'on avait la volonté d'installer un collectif de maraîchers, justement de trouver des synergies autour de ça et un vrai modèle économique. ça les a intéressés, donc ils nous ont fait confiance, donc ils nous suivent à la fois en mettant les terrains à disposition, mais aussi en nous aidant dans l'investissement sur les premières années pour lancer le projet.
Alors qu'est-ce que c'est ça ?
Ça c'est du Mizuna, c'est des petites verdures qu'on vend du coup très jeunes, parce que du coup elles sont très nutritives et elles ont pas mal de goût.
Alors ça doit beaucoup plaire quand même à notre nutritionniste, hein, donc à Sophie Léger, parce que vous faites partie aussi évidemment de cette affaire avec Isseur. Alors racontez-nous vous aussi votre rôle et ce que vous aviez voulu faire, donc, parce que là on est quand même dans un schémage très intéressant.
Et bien moi en tant que nutritionniste, je voulais partager le plaisir d'une alimentation durable et montrer que c'était possible de se nourrir avec un petit peu moins de produits animaux, parce que qui dit durabilité de l'alimentation dit plus de produits végétaux, que ce soit les légumes mais aussi les légumes secs, les céréales, et que ce n'est pas des produits qui sont très facilement appréciables par tous, et donc comment faire apprécier et faire connaître notamment aux enfants tous ces produits. Et on sait qu'il faut connaître les produits pour avoir envie de les goûter, et donc tout ce qu'on fait dans les ateliers avec les élèves, c'est les familiariser avec toutes ces catégories de végétaux.
Alors votre travail, c'est justement d'aider à ce maillage de différentes fermes, de faire le lien avec les enfants, avec les parents, avec les écoles.
Tout à fait. Avec Sophie, nous travaillons sur des ateliers. Donc l'objectif est de travailler sur la transition écologique des enfants, l'équipe pédagogique et les familles. On travaille également sur un label qui s'appelle la Nutri-écologie, donc avec les agriculteurs et les écoles et la restauration collective, afin que tout le monde se suit et qu'on crée un grand réseau Nutri-écologie créé par Christian Ramsey, et que on s'accompagne sur plusieurs années pour manger le mieux possible. Par la suite, on va aussi les accompagner sur d'autres transitions, mais aujourd'hui, c'est l'alimentation.
Définition de la nutri-écologie.
Comment se nourrir tout en protégeant sa santé et la planète.
Prendre soin à la fois des sols, donc de son bout de terre, et aussi de son petit écosystème personnel. Quoi.
C'est ça, de sa communauté. Ouais. Nourrir la terre et les hommes.
Et puis bien sûr, il y a les arbres. Sans eux, on n'aurait pas de sol. Vous en plantez, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, on voit qu'entre nos blocs, on a planté quelques arbres fruitiers. Ils viennent fournir des services en fait, pour l'écosystème. Donc à la fois créer une sorte de barrière brisant contre les vents froids pour protéger les cultures, plutôt l'hiver, et l'été, ils viennent apporter un peu d'ombrage. Et en même temps, en dessous, on va faire des différents strates, par exemple avec des arbustes fruitiers qu'on va planter dans 2 semaines.
Alors ça, c'est pas des hautes tiges, hein ?
Alors ça, ce sont des basses tiges.
Ouais.
En fait, ils sont petits, mais ils ont déjà 6 ans d'âge.
Ouais.
Ils vont avoir la taille parfaite pour pas créer trop d'ombrage sur les cultures, mais juste assez vraiment pour l'été. Et en même temps, si on regarde bien, il y a des petites cabanes en bois faites par un de mes copains qui a lancé une entreprise qui s'appelle Becquet, qui réutilise des palettes pour en faire des nichoirs. Et donc, on a sélectionné différents oiseaux qui sont insectivores, qui vont manger les insectes qui nous posent problème. Et donc, on crée une sorte de lutte biologique avec, on va avoir des nichoirs à chauve-souris, des nichoirs pour des mésanges. Et donc, on a encadré toute notre parcelle de gardiens.
L'idée, c'est quand même, Isseur, quelque chose qui vous est extrêmement cher, c'est-à-dire d'arriver à une société sans pétrole, sans énergie fossile, en tout cas le minimum.
Tout à fait. L'idée, c'est de favoriser les réseaux locaux. Pour ça, on souhaite créer donc ce réseau de nutri-écologie où les maraîchers, les agriculteurs de proximité fournissent les familles qui vivent tout près, et également que les familles participent dans la vie, dans le travail de leurs agriculteurs, en plantant par exemple mardi prochain, les parents viendront aider Octave et Basile planter des arbres. On a combien d'arbres? 850, c'est ça?
Ouais.
850 arbres. On fera découvrir également aux enfants la ferme. On aura beaucoup d'occasions d'échange. Donc vraiment, cette redécouverte, c'est très important afin qu'on sache aller vers un monde plus écologique et plus social.
Comment on se projette? Comment on voit ce monde aujourd'hui merveilleusement fracassé? Mais personne ne se résigne, ni nos auditeurs qui nous écoutent, ni vous. Comment vous projetez?
Moi, j'ai envie de mettre un petit message d'espoir parce qu'en fait, on se rend compte avec Octave que depuis qu'on se lance dans ce projet, les portes s'ouvrent. Et c'est assez formidable parce qu'en fait, les gens viennent nous aider. Bon, on a eu cette période de confinement qui, en fait, a été assez formidable pour nous parce qu'on a reçu beaucoup d'aide. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de jeunes de notre génération qui s'intéressent à ces métiers. Des jeunes qui, parfois, ont des diplômes, sont capés comme jamais, mais qui viennent nous aider. Aujourd'hui, là, on a un service civique d'une grande école de commerce qui vient s'engager à nos côtés et c'est pas le seul à le vouloir, et donc moi je suis assez optimiste là-dessus parce que je sens qu'il y a un vrai engagement qui est profond et je pense qu'il est temps de s'engager. Ouais.
Basile Millet et Octave Lemaître dans leur ferme du Recueil, ces deux-là nous font du bien. Et puis on va donc poursuivre en rencontrant, je vous avais dit, donc éducation à la nutrition, donc aussi à la planète. Ça va être le cas dans quelques instants dans cette deuxième partie où on va entendre donc les enfants dans une autre école, l'école Jeanne d'Arc à la Madeleine.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Please can you tell me why? nourris mon
corps.
Je nourris mon
cœur.
Je mange beaucoup de
végétaux.
Moins de
animaux.
Peu de
transformés.
Je mange des fruits et légumes de
saison.
J'essaie de ne pas
gaspiller.
Et je mange beaucoup de
légumes secs.
Et ben voilà. Et après, ça distille, ça remonte évidemment du côté des parents. Donc tout changement de comportement alimentaire, on le sait, sera bénéfique pour la planète, grâce quand même, entre autres, à la réduction des émissions de CO2, mais pas que. Et même, vous voyez, des grands navires comme les coopératives de France, ben, le savent et donc s'y mettent parce que c'est le sens de l'histoire. Quoi qu'il arrive, on le sait. Alors, donc, des écoles de la région lilloise qui ont mis en place des ateliers avec les enfants et leurs familles afin de répondre donc à la charte de nutri-écologie. Moi, je vous renvoie toujours donc sur cet ouvrage de Christian Remzi, donc aux éditions Thierry Soucard, la nutri-écologie. Et alors, parmi les ateliers, visite guidée d'un potager partagé, repas éco-végétarien, conférence auprès des familles, on l'a compris, sur comment faire manger des légumes et des fruits de saison à ses enfants, ça ne va pas forcément de soi. Bon, puis plein d'autres initiatives qui sont très très bien. On continue avec Isa Norin et puis donc Sophie Léger et Sylvia Liagre qui nous a accueillis dans son école Jeanne d'Arc. On a changé de lieu. Bon, on n'est pas loin, hein. On est toujours dans la métropole lilloise. On avait Villeneuve d'Ascq. Ah, on s'est un peu déplacé. On est du côté donc de la Madeleine. Toc, toc. Et voilà. Alors, la cour de récréation donc, de notre école Jeanne d'Arc de la Madeleine. Alors là, je vais me tourner vers vous, Amandine de Roubaix, parce que nous sommes dans la cour de récréation. Alors ça se traduit comment? Là, on va parler d'alimentation, hein, puisque donc on sait que nos amis de la ferme du Recueil sont partenaires, sont jumelés avec cette école. Et qu'est-ce que vous allez faire?
On a initié un programme de tri, par exemple, des déchets,
ouais.
À la cantine. Les enfants sont des ambassadeurs. Alors les grands, plutôt les CM1, CM2, guident les enfants pour qu'ils puissent trier. Et puis gâchés de moins en moins. Donc ils reviennent avec un petit bon l'après-midi qui montre qu'ils ont fait des efforts et qu'ils font attention à ce type d'action.
Oui, c'est un bon point pour éviter le gâchis, quoi.
Une stimulation, ouais. Mais qui fait bien son effet. Et je pense que les enfants, ils sont vraiment aptes à faire changer les choses.
Et le résultat, il est très très net parce que vous avez quasiment pas de gâchis alimentaire maintenant.
Tout à fait, de moins en moins. Et puis donc c'est pesé. Donc, voilà, il y a une vraie réalité derrière, on le communique via le site de l'école ou via nos parents. Donc les enfants, ils mesurent vraiment leur progrès et ce qu'ils font de bien pour la planète.
Alors il y a donc cette notion de gâchis alimentaire, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Après, on a toute une partie information où les enfants vivent des ateliers avec Heather et Madame Léger. Là, on va vivre un atelier sur les légumineuses, les légumes secs, donc on s'est préparé un peu avec les enfants.
Allez, on rentre dans l'atelier, classe de CM1A, Amandine de Roubaix. Et ben bonjour à vous tous. Salut, ben, merci de m'accueillir.
Bonjour les enfants. Alors, devinez le thème de l'atelier d'aujourd'hui.
Les légumes secs.
Les légumes secs. Et pourquoi on vous parle des légumes secs, vous pensez?
Ça réduit la consommation d'animaux.
Ah bien, ça réduit la consommation des produits animaliers, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, vous pensez?
Parce qu'on doit utiliser moins d'eau pour les faire pousser.
On doit utiliser moins d'eau pour les faire pousser, ben, et donc pour les CM1, c'est super.
Pardon, on les conserve mieux.
Ça se conserve très bien, très longtemps.
On peut manger toute l'année.
Levez la main si vous mangez plusieurs fois par... Allez, 1, 2... Voilà, donc sur une classe de 25, vous êtes à peu près à 7 à manger plusieurs fois par semaine. Mais vous savez, si on vous présente les légumes secs aujourd'hui, c'est pour vous donner plus en...
Oui.
Parce que c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour la planète. Et on a besoin d'en manger plus. Vous avez envie d'en prendre plein de choses sur les légumes secs?
Oui.
Allez. On va commencer par vous faire goûter une forme de légumes secs que vous connaissez peut-être.
On va essayer de déguster en pleine conscience. Alors, vous installez bien confortablement sur votre chaise. Vous pouvez fermer les yeux et tendre les mains. Et Heather vous distribue l'aliment que vous allez goûter. Ça vient des pays asiatiques.
Du tofu.
Du tofu, très bien. Du tofu. Et alors le tofu, c'est fabriqué à partir de quoi? À partir de quelle légumineuse?
Du soja.
Du soja.
Alors, je vous explique un peu le jeu. Vous voyez, ça s'appelle « The planet is in jeopardy ».
Le planète est en... Voilà, donc on va le sauver en mangeant quoi? Et pour bien manger des légumes secs, il faut qu'on sache tout sur eux, n'est-ce pas? Allez, les protéines de légumes secs et des céréales se complètent. C'est le principe du végétarisme. A, vrai, B, faux.
Moi, j'ai rien dit, j'ai juste opiné.
5, 4, 3, 2, 1, aux ardoises.
Ouais.
Et la réponse est... La réponse est A,
oui, vrai. C'est vrai.
Donc on a 1000 points pour l'équipe. 1, 2, 4 et 5.
Allez. Alors là, Issa, donc on change de
lieu. On part d'une classe de CM1, ouais, avec Madame de Roubaix. Et on va partir dans une classe de CM2.
Allons-y. Alors, je suis avec Aïtem et Romane, et qui donc sont face au menu, et aussi face donc à leurs copines et copains de la classe.
Jeudi 3 décembre 2020, Perrine nous a cuisiné ce midi des lasagnes végétariennes. Entre chaque plaque de pâte, elle met une couche de béchamel, une sauce faite un peu de farine et de beurre, et beaucoup de lait, une couche de légumes. Aujourd'hui, ce sont des carottes et des céleris branches avec de la sauce tomate et du fromage râpé. Bonne dégustation!
Et qu'est-ce que vous avez si vous finissez votre assiette?
Un point zéro gâchis.
C'est quoi un point zéro gâchis?
C'est un point qui signifie que nous n'avons pas du tout gaspillé.
Super. Et ça vous donne droit à quoi dans la cantine? Vous devez faire le même fil que les autres qui ont gaspillé?
Non. On est un peu comme un pass VIP. On passe plus facilement.
Et vous avez eu combien de bons, vous, en novembre?
En novembre, on en a eu 57.
Bon, bah bravo.
Bravo.
Quand on gâche justement de la nourriture, qu'est-ce que l'on gâche avec? Au-delà du produit, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour moi, si c'est de la viande, c'est un animal tué, on va dire, pour rien. Et pour les fruits et légumes, c'est moins grave, mais ça gâche les efforts de l'agriculteur qui les a cultivés.
Moi, avant WeChange, quand on y avait pas, je savais pas trop ce que c'était le gâchis. Et du coup, je gaspillais quand j'avais pas envie de manger. Quand je trouvais ça, quand je regardais, je me disais « Ah, ça a une mauvaise tête, ça ». Après, quand j'ai vu que WeChange, il nous apprenait plein de choses avec le gâchis et ce que ça pouvait faire sur la terre, moi, je me suis dit « Pourquoi pas goûter plus de choses ?» Comme ça, au moins, après... on réduira nos gâchis.
Alors, changement de lieu. On est toujours dans cette école Jeanne d'Arc, donc à la Madeleine. On a, les petites herses pour mettre les trottinettes. Tout va bien. Et surtout, des mini-potagers, Isseur.
Tout à fait. Les mini-potagers, c'est un projet qui a démarré avec les petites sections pour mettre les mains dans la terre. Dès le mois de mars, nous aurons un carré de potager pour chaque classe. Et c'est nos maraîchers, nos agriculteurs Octave et Basile, ouais, qui vont nous aider à apprendre sur le long terme quelles sont les plantations, les symbioses entre les plantes qu'on peut faire pousser dans chaque classe.
Et les parents d'élèves mettent la main à la terre aussi?
Oui, on a reçu de la part de notre petite, donc en petite section, deux petits pots, des plantes et une courge, je pense, qui sont à la maison, prêtes à pousser et à être replantées dans le jardin au printemps.
Alors, qu'est-ce que vous voyez qui a bougé depuis qu'il y a cet enseignement quand même un peu plus sur ces sujets-là, d'alimentation, de nutri-écologie? Est-ce que vous remonte, Jeanne et vos autres enfants?
Papa, pourquoi tu jettes? Papa, pourquoi les épluchures? Papa, est-ce que... Alors, des pratiques que j'avais personnellement tendance à pratiquer, mais là, j'ai quatre yeux qui me regardent et qui commentent ce qui se passe en cuisine.
Et les familles vont aussi mettre la main à la pâte parce qu'on va avoir un samedi de construction de carrés de potager. Nous avons également une équipe de compost qui s'occupe de former les enfants et faire le compost. Donc les parents sont à 100% avec nous.
Issa, on va se quitter. Moi, je repars vraiment gonflé à bloc. Je n'étais pas déprimé, mais... Quand même, quand on voit ce travail-là, quand on voit les paroles de ces enfants, mais c'est formidable.
Je suis très heureuse que vous ayez cette sensation-là, parce que je ressens ça tous les jours. Dans ce nouveau projet, nous plantons des graines. Pour l'instant, quelques graines.
On travaille sur des bases qu'on espère dans un an vont se retrouver dans des centaines d'écoles et par la suite qu'on nous touchons d'ici 2030 un million d'élèves, dont 1,5 million par an et 40 000 enseignants et 5 000 agriculteurs. Donc on est sur un projet qu'on souhaiterait voir ventilé sur toute la France et pourquoi pas en dehors de la France, mais on souhaite avoir un impact majeur.
Alors cette affaire-là, certains vont dire c'est de l'utopie, mais tant mieux. C'est-à-dire demain, et on va dire après-demain, ça peut devenir tout à fait quelque chose. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle donc ces signaux faibles et qui sont très intéressants et qui peuvent peut-être aussi émerger. Alors il va falloir aussi l'aide du politique, on s'en doute bien, peut-être un peu de l'éducation nationale. Mais en tout cas, donc ça part de cette initiative d'UNESCOPE, We Change, et c'est plutôt bien. Et puis donc il y a cet ouvrage. Donc merci à tous, hein, merci à toute l'équipe qui m'a gentiment accueilli. Le papa aussi, Nicolas Dalluin, et puis les enfants, Octave, Basile, avec leur ferme, et puis bah, Heather, Noreen, et puis Sophie Léger, qui sont à la tête de ce We Change. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va y avoir la semaine prochaine? Ah oui, alors ça va être encore autre chose. Être chêne. Vous avez entendu Laurent Tillon à 8h20 chez Demorand, c'était hier, l'autre jour. Ah ben moi, j'y suis allé. Je l'ai rencontré, donc là, cette semaine, chez lui, dans la forêt de Rambouillet. On ne dira pas précisément où. Et donc, nous étions avec son quersus, autrement dit ce chêne qu'il a rencontré à l'âge de 14 ans. Et donc, il a eu un saut de chêne. C'était assez rigolo, d'ailleurs, comme métaphore. Ça. Il a eu un saut de chêne à vélo quand il avait 14 ans. Et il est tombé sur ce chêne. Il est tombé vraiment en compagnonnage. Donc, ce chêne, il a 240 ans. Et Laurent Tillon, lui, il a 44 ans. Donc, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je vous emmènerai à cheval aussi un peu plus tard avec Pascal Pic, que l'on connaît comme paléo-anthropologue. Mais on connaît moins sa passion pour le cheval. Et ben voilà, ce sera aussi donc dans... pas dans quelques instants, mais dans quelques semaines. Merci à Ludovic Asselot, à la technique, à Grégory Gualon qui a mixé donc le reportage, à Camille Blanès, Xavier Pestugia qui, comme d'habitude, a magistralement colorisé donc tout cela, Thierry Dupin donc, qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites, le Twitter tout simplement Denis Chessou et les podcasts, on avait l'habitude aussi bien... La Tulu, mon petit loup, donc ce sera à 17h50 aujourd'hui, et puis en podcast. Et ceux de CO2, mon amour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon dimanche.